France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la transparence de la vie publique. Elle s'organise en France de manière institutionnelle. Il y a par exemple une haute autorité qui y veille. Mais elle progresse surtout par les scandales ou les affaires qui éclatent sporadiquement. Qu'on pense à Jérôme Cahuzac, récemment François Fillon, dans un genre différent Marine Le Pen, avec un départ de feu également chez Emmanuel Macron. Grâce à la presse ou aux associations, à Internet, l'information est disponible, elle circule et de grands coups de projecteur sont portés sur les zones d'ombre. Pourtant, si l'on regarde la présidentielle française, les effets à ce stade de la transparence sur l'opinion semblent limités, voire nuls. Ces révélations suscitant même un mouvement inverse de consolidation des électorats. Les affaires deviennent aux yeux de beaucoup des manipulations et la transparence, l'autre nom d'une arme politique. Enjeux et limites de la transparence ce soir, au téléphone sonne.
Nicolas Demorand. Le téléphone sonne.
01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson. Je salue Eric au standard. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Nous vous écoutons, mon cher Eric.
C'est plutôt une réflexion et une suggestion. Est-ce qu'il ne serait pas bigrement légitime d'interdire simplement l'accès à tout candidat à quelques élections que ce soit, soit municipales, nationales, à des candidats qui ont un casier judiciaire, autrement dit interdire l'accès aux élections lorsqu'on n'a pas un casier judiciaire
vierge. Merci Eric pour cette question que je soumets aux deux invités du téléphone sonne. Daniel Soulez-Larivière, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Avocat au barreau de Paris, auteur de La transparence et la vertu chez Albin Michel. Lorraine Bouneau, bonsoir.
Bonsoir.
Déléguée générale de Transparency International France, interdire l'élection, quelle qu'elle soit, à toute personne n'ayant pas de casier judiciaire vierge. Est-ce une bonne idée, Lorraine Bouneau ?
Je peux que soutenir cette mesure parce que c'est l'une de nos 11 recommandations aux candidats à la présidentielle. L'année dernière, on a consulté nos suiveurs sur Internet, mais aussi les Français à travers un sondage sur leurs priorités en termes d'éthique, de lutte contre la corruption, mais aussi de transparence de la vie publique. Et la question de l'intégrité des décideurs publics arrivait en priorité, en premier lieu. Et cette intégrité, elle se déclinait notamment à travers une mesure qui était celle du casier vierge pour manquement à la probité.
Comment décririez-vous le concept de transparence, vous qui êtes de Transparency International? Ça veut dire quoi exactement dans la vie publique? Ça veut dire transparence sur quoi, pour commencer?
La transparence, c'est d'abord une chose à dire, c'est que c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. La transparence, faut pas se tromper de cible. C'est-à-dire que souvent, ce qui arrive, c'est quand on voit de nombreuses affaires arriver devant les tribunaux, dans les médias, et puis on en parle aujourd'hui au quotidien, on a un peu tendance à tuer le messager, le porteur de mauvaises nouvelles. La transparence, c'est simplement un outil. Elle concerne pas tout le monde, elle concerne pas tout. Et elle n'est pas à faire et à déployer n'importe comment. C'est un moyen qui est très utile pour mettre en lumière des pratiques qui peuvent être tendancieuses ou qui peuvent prêter aux soupçons. Mais aussi pour peut-être aussi faire la lumière sur quelques fantasmes qu'on peut avoir. Par exemple, nos élus sont tous pourris. Non, c'est pas le cas. Quand on a la transparence sur les données, sur les affaires de corruption, on se rend compte que sur les 600 000 élus qu'on a en France, on a près de 240 qui font l'objet d'une condamnation chaque année. Voilà, donc c'est très peu. Donc elle met en lumière des pratiques, mais elle permet aussi une certaine forme d'autorégulation et d'éthique personnelle. Si je sais que telle ou telle donnée va être rendue publique,
je fais attention,
peut-être je m'interroge.
En général.
Voilà, ouais. Peut-être je fais attention, peut-être que je m'interroge sur le bien fondé de cette dépense ou de telle ou telle amitié que j'ai pu développer ou de tel cumul d'activités. Voilà.
Conflit d'intérêts possible, etc.
Exactement.
Maître Soulez-Larivière, je vous donne la parole à la fois sur les casiers judiciaires vierges et sur ce moyen que vient de décrire Lorraine Bouneau qu'est la transparence.
Bon, les casiers, il y en a trois. D'abord le 1, le 2, le 3. Le 3, c'est celui qui est accessible à tout le monde, oui. tout n'est pas susceptible d'être d'empêcher un homme politique de se présenter s'il a envie, avec un petit casier judiciaire, ça dépend. Faut examiner les choses. Et puis il y a des choses qui sont amnistiées, puis il y a des choses qui disparaissent du casier. Bon, que ça... Alors moi sur la transparence, je voudrais dire deux choses. Le départ et l'arrivée. Au départ, c'était il y a une quarantaine d'années, quand on parlait d'un homme transparent, c'était un homme qui n'existait pas.
Fallot.
Voilà. Et aujourd'hui, quand on parle de la transparence, c'est tellement inflationniste que le seul homme transparent, c'est l'homme mort. Parce qu'il n'y a plus rien à voir. Alors, je pense que, deuxièmement, c'est pas une vertu, la transparence. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Pas plus que le secret. C'est le maniement de la transparence et du secret qui peuvent être vertueux ou peut-être vicieux. Et il y a autant de vices dans le dévoiement de la transparence que de vices dans le dévoiement du secret.
Le vice dans le dévoiement, est-ce que vous pourriez le décrire, qu'on voit précisément à quoi vous faites allusion?
Bah, c'est ça, ce que j'écris, ce que j'explique, c'est vous avez une transparence qui va de haut en bas, c'est-à-dire celle que le pouvoir veut exercer sur l'ensemble de ses citoyens. C'est ce qu'essaye de faire la loi sur le renseignement avec beaucoup plus de délicatesse qu'aux États-Unis. Bon, mais ça, donc cette volonté-là, elle est évidemment très inquiétante, toujours, mais nécessaire et inquiétante. Il y a la transparence du bas vers le haut, c'est-à-dire celle des citoyens qui veulent tout savoir par le menu de leurs dirigeants, ce qui fait que le langage politique est presque plus possible parce que il ne peut pas y avoir de langage politique sans une période de secret et une période de transparence. L'art du politique, c'est de voiler et de dévoiler en temps opportun. Bon, si vous voulez, la transparence telle qu'on la vit aujourd'hui, on a l'impression que c'est comme si on faisait de la musique sans avoir le temps. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de musique. Ça fait un gros boom et c'est terminé. Bon, il y a la transparence, enfin, qui s'exerce, qui est très discutable aussi, à certains égards. Latérale, c'est-à-dire les gens s'exposent les uns aux autres. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'inquiète tout autant que celle du haut en bas et du bas en haut.
Alors, il y a, par courrier électronique, Annie qui nous pose la question suivante. N'y a-t-il pas un paradoxe, voire une contradiction de notre part, nous, les citoyens, de réclamer cette transparence et de n'en rien faire lorsqu'elle nous apprend les exactions de ceux qui nous représentent? Est-ce que les citoyens n'ont donc pas un rapport très ambigu à l'idée même de transparence? Oui, vouloir savoir et en même temps, ça ne bouge pas beaucoup le sens d'une élection, non? Je me trompe peut-être, Lorraine Bounot?
C'est un peu admettre que finalement, bon, bah, c'était mieux quand on savait pas.
Je pense pas que notre auditrice dise ça. C'est on sait et ça ne change pas.
Alors ça, c'est un problème de moyens, de peut-être moyens de la justice, de lenteur, peut-être de procédure. C'est peut-être un problème, voilà, qui est plus institutionnel ou juridictionnel, plus qu'un problème de transparence en soi. Alors, transparence ouais. Permet en fait d'amener ces informations-là dans le domaine public. Après, il faut que les citoyens comme les institutions s'en saisissent. Et agissent au regard de ces informations.
Comment lisez-vous, alors je formule la question différemment, les cas François Fillon, Marine Le Pen aujourd'hui, où on voit que dans un cas, si on regarde les enquêtes d'opinion, il y a 17 à 20% de citoyens qui sont prêts à voter pour François Fillon, quelles que soient les affaires, et 25, 26, 27 pour Marine Le Pen, quelles que soient les affaires judiciaires. Là, il y a de la transparence, là on sait, là on apprend des choses, et ça ne semble pas modifier, en tout cas substantiellement, les intentions de vote.
Je ne suis pas forcément bien placée pour juger du choix des citoyens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en tout cas, ils soient informés et qu'ils soient au courant avant d'exprimer leur vote. Parce que souvent, la question qui revient, c'est oui, alors on sait que tel ou tel a eu tel démêlé avec la justice et pourtant il est réélu ou elle est réélue.
Mais ça, c'est un fait, ça existe.
C'est un fait. Alors, ça pose un souci, ça pose plusieurs problèmes. C'est que de un, en fait, on offre déjà cette possibilité-là aux citoyens. Il existe quelque chose qui s'appelle la peine complémentaire d'inéligibilité, qui jusqu'à présent était très peu prononcée. En 2014, on avait eu une peine complémentaire d'inéligibilité sur 240 condamnations. Bon, voilà. Après, il y a une question aussi de peut-être les gens ne sont-ils pas assez renseignés sur les enjeux de la corruption ? Aujourd'hui, on n'a pas de base de données ouverte avec toutes les affaires de corruption disponibles à la disposition de tout le monde. Donc, finalement, les coûts de la corruption, qu'ils soient les coûts financiers ou les coûts même démocratiques de cette corruption, sont peut-être pas tout à fait suffisamment palpables. Et il y a peut-être un plus grand travail de sensibilisation à faire là-dessus. Et puis après, il y a peut-être aussi le problème de l'offre politique. Il faut peut-être renouveler la vie politique, ce que la loi sur le non-cumul pourra peut-être permettre.
Maître Daniel Soulez-Larivière, votre lecture de cette campagne électorale sous l'angle précisément de la transparence et de son efficacité relative?
Alors, je pense qu'il y a un moment où les gens s'en foutent, si vous voulez. Luc Ferry a fait un très bel article dans le Figaro, il y a qu'un petit moment, disant qu'est-ce que les gens préfèrent, un bon vendeur ou un vendeur bon? Bon, la plupart du temps, les citoyens préfèrent un bon vendeur et ils se fichent un peu de savoir si c'est un vendeur bon. Alors, il y a un peu de ça là, dans la réflexion. Alors, il y a aussi des anomalies, mais qui sont les époux Balkany, par exemple, qui ont été sur la sellette depuis des années. Et les gens ont continué à voter pour eux. Hein. Donc, je pense que le travail que fait Transparency est très utile parce que c'est un travail civique, c'est-à-dire c'est un travail qui n'est pas dans une militance aveugle, mais c'est un travail qui permet aux gens de s'informer et de comprendre pourquoi, non pas, c'est pas bien de faire des choses pas bien, ouais, non mais ça d'accord, tout le monde est un peu au courant, mais en quoi certains types de comportements ne sont pas compatibles avec l'activité politique, encore que ça puisse se discuter à l'infini.
Oui, allez-y.
Oui, juste pour rebondir, le problème c'est peut-être d'articuler ces questions d'efficacité. Effectivement, je pense que certains citoyens se disent, bon, si tant que mon élu est efficace, finalement, est-ce que le reste est vraiment important ? Mais d'articuler ces questions d'efficacité avec les questions d'intégrité et de probité qui sont essentielles.
Ça me rappelle quelque chose, je discutais l'autre jour.
La rivière.
Je discutais avec un ami qui travaille dans le Conseil aux entreprises sur les droits de l'homme. Et il me disait très justement, et ça fait plusieurs années que ça commence à entrer dans l'esprit des chefs d'entreprise, c'est que violer les droits de l'homme, ça coûte très cher. Pas simplement en pénalité, mais finalement, rendez-vous compte que l'intérêt de l'entreprise, c'est d'agir d'une certaine façon qu'on peut qualifier d'éthique, et qui peut l'être, hein, mais c'est son intérêt de business.
Voilà,
et c'est ça.
L'intérêt économique peut avoir un revers moral.
Et peut avoir un revers, peut avoir un versant.
Un versant, excusez-moi. Pardon. Oui, oui. On retourne au standard. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui. Je suis très très ému parce que je vais vous parler de mon père qui était préfet et de mon grand-père qui était aussi préfet. Et mon père, surtout mon père, m'a appris, mais je l'ai perdu, j'avais 10 ans et demi et il me manque toujours, mais il m'a appris la transparence des hauts fonctionnaires. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Expliquez-nous, Daniel, expliquez-nous.
Alors, jamais, par exemple, je ne suis monté dans la voiture du préfet. Nous partions en vacances en train. Jamais mon père n'aurait piqué une feuille de papier. Alors, aujourd'hui, si mon père vivait encore, il serait très âgé, mais il serait horrifié par l'état de notre République. Parce que notre République est une république bananière. Et ça, je le pense depuis 40 ans. J'ai 73 ans. Hein. Voilà. Nous vivons dans une république bananière où n'importe quel secrétaire d'État se promène avec des motos devant et des motos derrière. C'est invraisemblable. Et alors, je ne veux même pas parler de M. Fillon. Je ne sais même pas comment des gens peuvent encore voter pour lui. Ne parlons pas de Marine Le Pen. Bon, tant mieux si les gens votent pour eux. Mais, franchement, je voulais témoigner avec beaucoup d'émotion. Est-ce que je peux vous raconter une toute petite histoire ?
Je vous en prie, Daniel, allez-y.
J'ai travaillé chaque année avec Noël Bréham au Petit Bateau parce que j'étais un peu le monsieur histoire des petits bateaux. Et la troisième année, Noël m'a dit, Daniel, il faut que vous touchiez quelque chose. Je lui ai dit, mais Noël, non, je viens là pour... Voilà, bon, et je bossais, hein, je peux vous dire, pour les petits bateaux. Et elle m'a dit, c'est obligatoire, vous venez là pour la troisième fois. Voilà ce que je voulais dire. Parce que ça, j'ai appris ça. J'ai eu ma propre entreprise d'édition, hein, à Paris maintenant, je suis à Uzès, mais bon, en 25 ans... oui, j'ai dû faire deux fois un repas avec ma femme en le déclarant un repas d'affaires. En deux ans, en 25 ans.
Vous êtes le digne fils de votre père, Daniel. Merci.
Ben, j'essaye de l'aide, Nicolas.
Merci, merci à vous d'être intervenu. Merci d'avoir partagé vos souvenirs de famille également avec nous. Une éthique et une retenue dans quand on est fonctionnaire, disait Daniel, qui s'est perdu. Si mon père était là, mon père préfet était là aujourd'hui, il serait absolument ahuri de voir comment ces choses-là ont évolué. Vous voulez dire un mot, Lorraine Bounot, sur l'usage de l'argent public, enfin le modèle de Gaulle dont on parle très souvent à l'Élysée, payer ses factures d'électricité soi-même quand on est président de la République, etc.
Je peux que le rejoindre, et c'est vrai que c'est un témoignage qui est très touchant sur l'exigence d'éthique personnelle et de contrôle sur soi aussi, que ce qu'on appelle la déontologie que chacun doit avoir, et qui autrement, si on ne l'a pas, entame grandement la confiance qu'on peut avoir dans les décideurs publics. On avait fait un sondage avec des chiffres un peu alarmants à l'octobre dernier, où plus d'un Français sur deux finalement n'avait pas confiance ou estimait que ceux qui exercent des responsabilités politiques ou publiques ou économiques sont corrompus en grande partie d'entre eux. Ça montait jusqu'à 77% pour les parlementaires. Alors peut-être ça pourrait le rassurer un peu, mais l'état de la confiance vis-à-vis des fonctionnaires en revanche était plus positif. Mais ça reflète pas nécessairement en revanche la réalité de la corruption en France. Je crois que là, on voit toutes ces affaires dans les médias et arriver devant les parquets et être traitées avec célérité par la justice. C'est plutôt un bon signe de fonctionnement démocratique et de fonctionnement de nos institutions. Mais ça reflète pas, encore une fois, un état des lieux ou un état de fait qui toucherait tous nos élus, toute notre classe politique, tous nos décideurs publics ou tous les fonctionnaires. Bien au contraire.
Daniel Soulez-Larivière, à la fois sur le témoignage de notre auditeur et sur cette question de l'éthique. Est-ce que on peut s'appuyer sur l'éthique individuelle ou est-ce qu'il vaut mieux quand même avoir force de loi, avoir un bon texte derrière qui cadre les choses, et si on a de l'éthique personnelle, c'est mieux?
Oui, je pense que c'est une question de texte, bien sûr, mais on peut pas tout prévoir. Je pense que c'est une question de culture. Par exemple, on peut faire toutes les critiques qu'on veut à la magistrature, mais elle est absolument intègre. Bon, les fonctionnaires, moi, j'ai pas eu d'affaires de corruption de fonctionnaires. Je n'ai pas beaucoup. Je pense que c'est encore un corps qui se comporte très correctement. En revanche, c'est vrai qu'on assiste à une marchandisation. Alors, prenons ça de ce côté-là, une marchandisation très importante de la société. Dans ma profession, par exemple, certains avocats américains même se plaignent de ce que c'est plus une profession, c'est un business. Mmh. Vous voyez? Alors, c'est ça que, moi, c'est pas tellement l'acte individuel de le gars qui fait un péché, bon, qui se laisse corrompre. Bon, je pense que c'est relativement isolé. En tout cas, dans certains corps, c'est totalement impensable. Dans notre profession, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de publicité qui est permise, alors que c'était interdit. On peut démarcher les clients alors que c'était interdit. Il y a toute une série d'évolutions qui sont considérées comme normales et qui effectivement font qu'il y a une marchandisation dans certains secteurs qui n'existait pas auparavant et qui est pas forcément formidable.
Denis, bonsoir.
Merci pour votre excellente émission.
Merci à vous.
J'ai écouté vos intervenants. En fait, c'est bien le mal français, là. Ils sont lancés dans une analyse philosophique sur la transparence, l'éthique. Pourquoi pas appliquer les règles des pays nordiques, qui, eux, pour le coup, sont très pragmatiques et qui ont instauré les règles de transparence et d'éthique et qui ne permettent pas ce genre de dérive. Pour anecdote, vous l'avez sans doute en tête, cette ministre du Travail, finlandais, je crois, qui a été obligé de démissionner pour l'achat d'une barre chocolatée. Vous vous rendez compte ? Donc, au regard de nos affaires concernant nos hommes politiques, il serait complètement invraisemblable que ces mêmes hommes politiques français briguent un mandat à la fonction suprême. Donc, appliquons les règles au même titre que les pays nordiques. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour assainir un petit peu ce monde politique qui se renouvelle si peu, il serait simple de limiter les mandats dans le temps. Une plus grande diversité au Parlement, ce qui éviterait justement la collusion entre les affaires, les lobbies et l'argent. Ça me paraît simple, mais voilà, vous êtes à nouveau parti dans un débat trop philosophique. Appliquons, comme les pays nordiques, des règles simples à mettre en place.
Alors la philosophie n'est pas nécessairement inutile, Denis, hein, dans ces questions-là, mais merci de nous ramener les pieds sur terre et de nous emmener donc dans les démocraties, dans les pays nordiques. Lorraine Bounot, il reste un modèle, ces pays nordiques, sur le plan de la transparence et des conséquences de ces actes quand on est homme ou femme politique.
Oui, il reste encore un modèle, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans notre classement, on a un indice de perception de la corruption chaque année. Dans notre classement sur 174 pays pour l'an dernier, ils apparaissent en tête de liste, hein, très clairement, le Danemark, la Finlande, la Suède. Ce sont effectivement des pays dans lesquels la perception de la corruption est beaucoup moindre. Et après, bah, je remercie Denis, du coup, de parler aussi de ces sujets concrets qu'on aborde tout à fait et qui font l'objet d'une, pour nous, de recommandations très concrètes et très pragmatiques.
Raccourcissement des mandats et
renouvellement de la classe politique, limitation du cumul des mandats dans le temps, application de la loi sur le non-cumul des mandats, la transparence sur les indemnités des parlementaires. On parle aujourd'hui de l'IRFM. Alors, c'était un mot barbare, hein, il y a encore quelques mois. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est, donc c'est une bonne chose. Transparence sur cette indemnité représentative de frais de mandat. Aussi, meilleur encadrement du lobbying. Voilà, toutes ces propositions qu'on a soumises aux candidats.
Maître, les démocraties du Nord.
Oui, alors moi je vais vous parler d'une démocratie du Sud aujourd'hui, mais qui ne l'était pas au XVe siècle, et qui était dirigée pendant 4 ans par la dictature de Monsieur Savonarole, qui était un moine très très vertueux. Et ça a duré 4 ans, ça s'est très mal terminé, puisqu'il a été pendu d'abord et brûlé ensuite. Ça veut dire que...
Qu'on appelle la double peine.
Voilà. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours penser à ça. L'idéologie de la vertu, c'est très bien, c'est très sympathique, mais il faut pas tomber dans une espèce de puritanisme insupportable où rien n'est permis, tout est défendu, et même on finit par faire le procès de la pensée des gens, parce que c'est pas bien de pas bien penser. Donc il y a tout un danger dans lequel il faut pas tomber, qui est celui de, moi je trouve que la barre de chocolat, c'est un très mauvais exemple pour l'exercice intelligent de la vertu. Je trouve ça même complètement idiot. Mais en revanche, c'est vrai qu'on a vu aux États-Unis un ministre d'un président, je ne sais plus lequel, qui était obligé de démissionner parce qu'elle payait au noir son babysitter. Alors, c'est un peu exagéré, ben ça ferait du mal à beaucoup de Français, mais je comprends. Mais dans la mesure, bon, on va pas jusqu'à Monsieur Cahuzac qui était le ministre du budget qui luttait contre la fraude fiscale et qui lui-même était un fraudeur. Bon, d'ailleurs ça s'est mal terminé. Non, je veux dire que pas de militance de la vertu surtout, parce que là on tombe généralement dans des catastrophes. Mais il y a un peu de bon sens qu'on peut mettre partout.
Vous voulez redire un mot, Lorraine Bounot?
Peut-être une petite note un petit peu positive, c'est que déjà là, ce à quoi on assiste, c'est quand même, on parlait de changement de culture tout à l'heure, mais c'est quand même ce qu'on voit aujourd'hui. Les mobilisations qu'on voit le week-end dans la rue, Place de la République, je ne pense pas qu'on les aurait vues il y a encore quelques années. Vous parliez des institutions qui ont été créées, des grandes lois de moralisation de la vie publique ou de transparence de la vie publique ces 5 dernières années, avec un statut pour protéger les lanceurs d'alerte, la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Parquet National Financier. On a plus de 14 000 décideurs publics qui doivent publier leurs déclarations d'intérêts et de patrimoine. Qu'on a un véritable changement de pratique aussi. Et c'est ce changement de culture-là qu'il faut en fait continuer à accompagner et pour lequel il faut s'assurer que les réformes qui ont été adoptées déjà soient bien mises en œuvre et que les moyens soient donnés aux institutions qui ont été créées.
Et vous êtes tranquille sur l'idée de la Ligue de Vertu, Lorraine Bounot, vous n'êtes pas travaillé par une passion vertueuse avec un gros bâton, Savonarole, disait Daniel Soulez-Larivière.
Non, je suis travaillé par le souci de la redevabilité. Voilà.
Expliquez-nous.
Je pense qu'on peut pas assimiler une charge politique, faire un parallèle entre une charge politique et n'importe quel travail, n'importe quel boulot salarié. Il ne s'agit pas de la même chose. Une charge politique, elle implique qu'on délègue à un moment à un représentant, quelqu'un qui représente nos intérêts, qui représente l'intérêt général d'ailleurs, pendant un temps donné, la possibilité de prendre des décisions au nom du bien commun. Donc cette charge politique, elle implique des devoirs, voilà, tout simplement. Et ces devoirs, c'est notamment l'intégrité, la probité, le parler vrai et la redevabilité. Mettre en place ce sur quoi on s'est fait investir de ce pouvoir.
Voilà. Maître ?
Oui, alors, tout à fait. Pierre Rosanvallon est un de ceux qui a écrit les choses les plus intelligentes sur la transparence et la source politique de ça. Et il explique que la transparence, telle que je l'ai essayé de l'expliquer, c'est un mythe, c'est-à-dire qu'on peut pas arriver à une transparence telle que l'action même politique devient impossible. Mais il dit que c'est une frustration d'un système qui n'est pas arrivé depuis 200 ans à véritablement installer une démocratie dans laquelle le public puisse avoir la participation suffisante pour se sentir responsable aussi. Donc, c'est très difficile parce qu'on n'est pas arrivé à trouver de solution. D'ailleurs, on patauge toujours là-dedans, politiquement, depuis des années. Et particulièrement depuis la fin de général de Gaulle, parce que lui avait trouvé une formulation, une façon de faire, qui était un espèce de succès d'année de monarchie républicaine qui fonctionnait. Mais je pense que transparence et frustration, c'est un couple qui est bien décrit par Rosanvallon et qui est juste. C'était une frustration politique qui fait qu'il y a une demande exagérée de transparence. Parce qu'il n'y a rien qui puisse être complètement transparent. Vous savez, comme disait l'autre, l'homme a besoin du jour, il a besoin de la nuit. Et la nuit est aussi importante que le jour. Et si vous lui supprimez le jour, si vous supprimez la nuit, il meurt.
Renaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Nantes, bienvenue.
Bienvenue, merci, bonjour, bonsoir, merci de me prendre mon appel.
Je vous en prie.
Je suis très étonné, moi, qu'il n'y ait pas un code de déontologie pour les politiques, en fait. Moi, je suis médecin et j'ai un code de déontologie. Et si je commence à donner le nom de mes patients, je suis radié de mon ordre et je ne peux plus travailler. Et je trouve ça très étonnant si ces gens-là veulent en faire leur métier et que c'est un métier, il devrait y avoir un code de déontologie. Et s'il n'est pas respecté, ils ne devraient plus pouvoir le faire.
Merci Renaud merci pour votre intervention. Lorraine Bounot, un code de déontologie pour les hommes et les femmes politiques.
Alors, c'est déjà des mesures qui ont été prises pour... il y a une charte de déontologie pour les ministres qui a été adoptée en 2012. En revanche, on voit dans les affaires qui touchent les parlementaires, le statut des parlementaires et l'encadrement un peu des dépenses, qu'il y a clairement aussi un problème de déontologie au sein des chambres, avec effectivement quelques règles qui sont établies. Mais si après, on donne pas les moyens à celui qui en exerce le contrôle de le faire dans toute indépendance et avec des moyens d'enquête ou des moyens de sanction, ces règles de déontologie, on voit bien qu'elles ont elles-mêmes leurs limites et qu'elles peuvent rester lettre morte. Mmh. Voilà, donc la déontologie, oui, le contrôle sur soi, oui, c'est très important, mais il faut assortir ces mesures-là de règles strictes d'encadrement, de contrôle et en toute indépendance.
Daniel Soulez-Larivière.
Oui, pourquoi pas, mais simplement ça résout pas tout. Ce que je crois, c'est que l'éthique, ce n'est pas simplement la déontologie. Et même quand il y en a une, l'éthique subsiste. Et c'est quoi ? C'est pas ce qu'on imagine, la moralité, etc. C'est la mesure de la conséquence des actes dont on prend l'initiative sur les principes, y compris ceux sur lesquels on vit. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui peut se représenter assez facilement dès lors qu'on la débarrasse de toutes les bondieuseries du monde. Je pense qu'il y a une culture de l'éthique qu'il faut enseigner très tôt. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'enseigne pas suffisamment à l'école et à la justice. Et puis il y a aussi l'éthique.
Christophe, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Merci pour la qualité de vos émissions. Je voulais juste faire un rapprochement entre la façon dont les hommes politiques utilisent leur argent et la façon dont moi, en tant que chef d'entreprise, je l'utilise. Pour moi, pourquoi on demande beaucoup plus de transparence au niveau de la société française? Je pense que c'est parce qu'on a un gros déficit de confiance envers nos hommes politiques. Et moi, en tant que chef d'entreprise, ça ne me viendra même pas l'idée de prendre de l'argent à la caisse pour me payer des choses à titre personnel. C'est quelque chose que je n'arrive pas à concevoir, ne serait-ce que par respect pour mes salariés. Mmh. Et puis, pour mes fournisseurs, mes clients, les hommes politiques devraient penser un peu à mieux nous respecter et justement avoir cette éthique-là, ça c'est sûr.
Merci Christophe pour cette intervention. Lorraine Bouneau, un mot?
C'est effectivement un paradoxe. On parle de plus de devoirs pour ceux qui exercent une charge publique et finalement on se rend compte que dans certains cas, il y a moins de contraintes que pour des salariés ou des chefs d'entreprise. Concernant les notes de frais, par exemple, dont ce monsieur parlait, on peut assimiler ça finalement à donc cette indemnité représentative de frais de mandat à l'Assemblée, les notes de frais des parlementaires sur lesquelles il y a une totale opacité et il n'y a aucun contrôle qui est exercé. Donc c'est-à-dire qu'on a tous ces 577 par exemple députés qui bénéficient de cette enveloppe qui est assez conséquente et qui peuvent dépenser avec certaines indications qui sont contenues d'ailleurs dans le règlement de l'Assemblée, dans des indications de déontologie, de règles générales, mais finalement aucune transparence sur ces dépenses-là et aucune autorité de contrôle pour en vérifier effectivement qu'elles ont été dépensées dans le strict respect de leur mandat et pour des frais qui concernent leur activité de parlementaire.
Mmh. Maître Soulez de la Rivière.
Oui, qu'est-ce que vous voulez, l'exemple le plus vivant de ces problèmes qui sont soulignés par notre ami, c'est l'affaire Fillon. Parce que on a accepté, et c'était vraiment général, que les parlementaires disposent d'une certaine enveloppe dont ils pouvaient faire en gros ce qu'ils voulaient. Et les profs de droit que j'ai consultés, qui ont exprimé, expliquent que la liberté du parlementaire par rapport à cette enveloppe est pratiquement complète. Bon, simplement, donc ceux qui ont utilisé cette enveloppe comme ils l'ont souhaité pour régler leur épouse, leur travail, leurs enfants, ça, pour moi, ça n'a rien d'illicite, mais ça ne passe plus. Et donc, il y a quand même une réflexion. Et ça fait des dégâts.
Oui, légal et moral.
Ça fait des dégâts. C'est-à-dire que je pense qu'il faut peut-être qu'on revoie, qu'on revisite un certain nombre de pratiques. Par exemple, au Parlement, celle-là, ça va être le cas, mais on l'a fait à chaud. C'est-à-dire parce qu'il y a eu l'affaire de Fillon, on va réfléchir sur l'histoire des enveloppes. Bon, mais c'est dommage de pas l'avoir fait avant, parce que ça fait un désordre inutile. Mmh. Donc je pense qu'il faut revisiter un peu les habitudes, revisiter les pratiques. Nous faisons ça chez les avocats de temps en temps et régulièrement. Et il faut faire ça aussi chez les magistrats qui sont les gens qui rendent la justice et qui sont donc soumis à beaucoup de pression. Il y a toute une façon de revisiter les mœurs qu'il faut effectivement entreprendre et je trouve que Transparency contribue à aider.
Lorraine Bouneau.
Nous là-dessus sur la transparence de ces frais, ça a fait l'objet d'une pétition pour un parlement exemplaire puisque en réalité on n'a même pas besoin d'attendre une loi ou une prochaine mandature pour changer ces pratiques-là. C'est des pratiques qui peuvent être changées directement par les bureaux des assemblées si elles le votent et elles le souhaitent.
Absolument.
Donc Claude Bartolone a mis en place un groupe de travail en fin février pour réfléchir à changer ces pratiques-là, les adapter. On invite un peu tous les citoyens à se rendre sur notre pétition, à la signer, à la porter et à porter ses revendications pour plus de transparence sur l'utilisation de ces indemnités.
C'est très utile.
Francis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de l'Haÿ-les-Roses.
Oui, je souhaitais juste vous livrer une réflexion. Depuis tout à l'heure, on parle énormément des parlementaires qui sont, et pour cause, ils sont au cœur d'affaires en ce moment, mais on ne parle pas du tout des élus locaux, alors qu'avec les lois de décentralisation, ils gèrent des budgets de plus en plus importants et qu'il y a de moins en moins de fonctionnaires dans les chambres régionales des comptes pour contrôler l'utilisation de cet argent. Et en plus, on parle d'élus locaux qui souvent cumulent des rétributions dans les syndicats intercommunaux, que ce soit les ordures, l'eau, dans les agglomérations, les communautés de communes, et tout ça sans vraiment de contrôle et avec de moins en moins de moyens de contrôle. Voilà. Mmh.
Merci Francis pour cette question, donc non plus sur le plan national, mais le plan très local de la politique, Lorraine Bouneau, et les sommes qui sont en jeu.
Nous, ça fait d'ailleurs l'objet d'une recommandation aux candidats à la présidentielle, donc dans le cadre de notre questionnaire qu'on a adressé et pour lequel on fera un bilan la semaine prochaine, le 23 mars, savoir qui nous a répondu à ce questionnaire. On rendra tout cela public, mais c'est de mettre en place un plan de prévention de la corruption dans les grandes collectivités locales. Sur le même modèle que finalement les plans de prévention de la corruption qui ont été adoptés dans le cadre d'une loi récemment qui s'appelle Sapin 2, ouais. Et qui vont être mis en œuvre par les grandes entreprises, donc faire une cartographie des risques, mettre en place un dispositif de recueil des alertes en interne pour les lanceurs d'alerte qui souhaiteraient signaler des manquements à l'intérêt général. Nommer un référent déontologue ou en tout cas quelqu'un qui puisse superviser et avoir ses qualités d'audit en interne dans les collectivités, parce qu'effectivement les enjeux financiers sont de plus en plus importants.
Maître Soulez-Larivière.
Oui, dans les entreprises, dans les grandes entreprises, il y a ce qu'on appelle un service qui s'appelle la compliance. Ça sert à quoi ? Ça sert à faire en sorte que les mœurs soient pures, que les pratiques soient bonnes et qu'il n'y ait pas de tentation de corruption. C'est un gros effort qui a eu simplement une petite dizaine d'années. Et je pense que cet effort de compliance, c'est le mot admis, on pourrait le faire dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, parce que finalement, et là je disais ça, finalement, ça ne coûte pas. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, la vertu est parfois payante. Voilà.
Vous souscrivez, Lorraine Bouneau?
Oui, tout ouais. À fait. C'est l'objet de notre recommandation. C'est effectivement adopter des bonnes pratiques voilà. Qui existent déjà et qui vont être mises en place dans le secteur privé, dans le secteur public.
Merci à tous les deux. Maître Daniel Soulez-Larivière, avocat au barreau de Paris, auteur de La transparence et la vertu chez Albin Michel. Lorraine Bouneau, merci, déléguée générale de Transparency International France. Donc vous relevez les copies dans...
Le 23 mars, la semaine prochaine.
Pour l'instant, on peut savoir qui a répondu, qui n'a pas répondu.
Tout est en ligne en fait. Si vous vous rendez sur notre site web, vous avez tous les questionnaires en ligne.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci aux très nombreux auditeurs d'Inter qui nous ont appelés ce soir au téléphone sonne. Le journal à suivre.